Bonjour. Ceci fait partie des deux enregistrements que je vous propose dans le cadre des bacs pro, accompagnement soins et services à la personne, aide-soignant, auxiliaire de puère, afin de vous accompagner notamment dans la terminologie et dans l'écriture de cette matière ergonomie qui figure dans tous les diplômes en question. Souvent, ce cours a été mis en place parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à faire les attendus de ce chapitre. On est dans un cadre de connaissances et dans ce cadre préventif, parfois, des gestes que l'on ne perçoit même pas, mais qui sont tellement répétitifs qu'ils sont la cause à terme de différentes maladies. Donc, votre partie dans ce cours est, dans un premier temps, la connaissance, un certain nombre de connaissances que vous devrez avoir. Premièrement, qu'est-ce que l'ergonomie ? L'ergonomie, c'est l'adaptation du travail à l'homme et cela contribue à prévenir les effets nocifs du travail sur l'organisme. L'ergonomie est constituée de deux approches. L'ergonomie de l'activité qui vise les positions, les gestes et l'ergonomie des équipements qui élabore les recommandations et les normes, hauteur, largeur, hauteur des plans de travail, hauteur des bureaux. Prenez juste comme exemple dans votre quotidien la largeur de la table à repasser, c'est de l'ergonomie. Les différentes hauteurs de la table à repasser, c'est aussi de l'ergonomie. Par rapport à cette définition, pour analyser une situation de travail, il faut prendre en compte le poste de travail, l'environnement, l'espace, la tâche à effectuer et vous-même, dans vos caractéristiques personnelles, votre grandeur, votre état de santé, votre musculature, etc. Avant de parler d'ergonomie, aussi, il est indispensable de parler de l'anatomie, du squelette, des muscles, des mouvements et des troubles musculo-squelettiques. D'abord, le squelette sert à soutenir les organes et protège les organes internes. Il sert également de levier aux muscles et les os, quant à eux, stockent les sels minéraux et permettent la fabrication de certaines cellules. Je vous invite à chercher une vidéo qui a été mise en place par C'est pas sorcier. Sur le squelette, c'est extrêmement bien expliqué avec les différents squelettes, les différents os, l'os le plus long, etc. Donc je vous invite à aller chercher cette vidéo sur Internet. Il est important aussi d'avoir une vue et une analyse du mouvement. Un mouvement, même très simple, nécessite généralement des mécanismes précis de coordination à travers un message nerveux qui va actionner des récepteurs, puis après des effectueurs. Par exemple, comparons un acte réflexe à un acte volontaire. C'est-à-dire, vous êtes assis sur une chaise et vous manquez de tomber. Votre axe réflexe, c'est de vous retenir. Ou vous avez un verre qui va tomber de la main. Votre axe réflexe, c'est d'allonger le bras et de faire rapidement une abduction et une adduction du bras pour retenir le verre par le biais de l'appréhension globale au niveau de la main. Donc, les muscles, à leur tour, ont des propriétés. Tonicité, excitabilité, élasticité, contractilité. Donc, dans les 14 besoins fondamentaux, il y a un certain nombre de besoins qui sont concernés par l'ergonomie, que ce soit pour vous ou la personne à mobiliser, qui sont maintenir une bonne posture, se mouvoir et aussi la sécurité et éviter les dangers. Dans la constitution de l'humain, nous avons un système passif et un système actif. Le système passif est composé des os et des articulations. Le système actif est composé de la contraction des muscles, c'est-à-dire le système qui agit. Quand vous avez toujours dans la notion d'actif et passif, dans la mobilisation, on parle de mobilisation passive et de mobilisation active. Donc, la mobilisation passive, c'est lorsque la personne que vous mobilisez n'est pas en mesure d'effectuer quoi que ce soit comme mouvement, que ce soit de par ses capacités physiques ou ses capacités intellectuelles. Donc, mobilisation passive, c'est quand le soignant doit tout faire. Mobilisation passive, le soignant doit tout faire. Dans la mobilisation active, le soignant invite la personne mobilisée à exécuter un certain nombre d'actes ou de gestes de manière à l'aider, à la soulager, mais aussi, c'est aussi intéressant pour la personne mobilisée d'avoir un brin de dignité, de pouvoir être acteur de sa mobilisation. Pour savoir si on est dans une mobilisation active ou passive, il est intéressant d'analyser la situation de mobilisation à travers la méthode qui s'appelle la QQQOCP, qui s'appelle aussi la démarche d'action, c'est-à-dire que je dois savoir qui je dois mobiliser, quelle est la personne que je dois mobiliser, avec quoi je dois la mobiliser, est-ce que c'est juste avec mes bras, est-ce que j'ai besoin d'un disque de transfert, pourquoi je vais la mobiliser, quel est l'intérêt de la sortir de son lit ou de son fauteuil, où est-ce que je vais avec elle, si je dois aller dans la salle de bain, dans un trajet court, si je dois aller dans un trajet plus long, où je dois aller, mais aussi où je me positionne, quels sont mes positionnements vis-à-vis de la situation et du transfert, et avec quels moyens je le mets en place, mais aussi les moyens matériels, mais aussi les moyens humains. Est-ce que j'ai besoin d'une collègue, d'un binôme, ou pas? Par exemple. Quand on parle d'ergonomie, on parle aussi de troubles musculo-squelettiques qui regroupent une quinzaine de maladies qui affectent les muscles, les tendons, les nerfs des membres de la colonne vertébrale. Ce sont des pathologies multifactorielles à composantes professionnelles. Les troubles musculo-squelettiques, TMS, comme on les appelle, s'expriment par de la douleur, mais aussi pour ceux des membres supérieurs, par de la raideur, de la maladresse ou une perte de force. Les régions corporelles concernées sont les épaules, le coude, les extrémités des membres supérieurs, le cou, le dos, la cheville et beaucoup de secteurs d'activité sont concernés. Je vous invite à arrêter cet enregistrement et à analyser en prenant un petit moment d'introspection quelles sont à votre niveau les parties les gestes répétitifs que vous faites et aussi les articulations qui sont le plus souvent sollicitées. Plusieurs facteurs sont concernés par les troubles musculosquelettiques, des facteurs individuels qui sont liés aux caractéristiques intrinsèques des individus, le sexe, l'âge, les antécédents médicaux. Il existe une sensibilité individuelle qui fait que pour un même geste effectué, certaines personnes auront une tendinite et une autre n'aura pas. Les facteurs environnementaux, et notamment les facteurs biomécaniques, c'est-à-dire la répétitivité des gestes, les efforts excessifs, les zones articulaires extrêmes, le travail en position maintenue, mais aussi c'est conditionné aussi par l'aménagement du poste et l'organisation du travail. Dans l'organisation du travail, on parle d'autonomie, de polyvalence, d'ordre contradictoire, de dépendance organisationnelle entre les opérateurs, une forte pression qui peut exister, mais aussi une charge ou une surcharge de travail qui peut être la cause de ces troubles musculo-squelettiques. Donc, quelques définitions. Une entorse est une lésion traumatique provoquée par un mouvement brutal de distorsion avec élongation ou arrachement des ligaments sans déplacement des surfaces ni articulaires ni fracture. On appelle lésion musculaire une déchirure musculaire plus ou moins importante à l'occasion d'un effort à froid ou d'un effort trop violent ou trop important. Une tendinite est l'inflammation du tendon qui relie le muscle à l'os. Un lumbago est une atteinte des muscles paravertébraux situés au niveau des vertèbres lombaires. Toujours en continuant dans les définitions, on appelle flexion un mouvement qui rapproche deux os l'un contre l'autre. Par exemple, quand vous vous accroupissez, les membres, les parties de vos membres inférieurs se rapprochent. Flexion. On parle aussi jambes fléchies. L'extension est un mouvement inverse de la flexion qui augmente la distance entre deux os ou entre deux parties du corps. Une extension, c'est par exemple quand vous devez lever vos bras et étendre votre corps pour atteindre quelque chose qui est bien plus haut que vous. L'abduction est un mouvement qui écarte un membre du plan médian du corps. Et l'adduction, donc un mot comporte un B et un D, l'autre contient deux D. L'adduction est le mouvement inverse qui rapproche un membre du plan médian. Quand, par exemple, vous faites un transfert, vous faites d'abord une abduction pour écarter votre bras de votre corps pour aller faire la prise en bretelle, mettre vos mains sous les aisselles de l'individu. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous ramenez effectivement vos bras vers votre corps en adduction. Ensuite, la rotation et le mouvement d'un os autour d'un axe, elle peut être interne ou externe. La rotation, on peut parler de rotation du poignet, mais aussi la rotation du pied. Par exemple, lorsqu'on vous fait un transfert du lit vers le fauteuil, à un moment donné, vous faites une rotation avec vos pieds pour vous retrouver, une espèce de quart de tour pour vous retrouver face au fauteuil. Par exemple aussi, en termes de rotation du poignet, quand vous avez terminé le pli interfessier dans la toilette au lit, quand vous êtes arrivé en haut du pli interfessier pour ne pas aller avec les microbes vers le dos, vous faites une rotation du poignet pour pouvoir éviter que les salissures ne n'aille sur le dos de la personne lors de la toilette au lit. Donc voilà quelques définitions. Qu'est-ce qu'on en fait quand, dans votre livret VAE? Ben, quand vous me parlez de votre position, de temps en temps, vous intégrez cette terminologie entre parenthèses, c'est possible aussi, quand vous parlez de position, de mouvement. Toujours quelques définitions, et on va s'arrêter là pour cet enregistrement. On parle de positionnement des de position des personnes, donc décubitus dorsal, la personne est couchée sur le dos, décubitus latéral, la personne est couchée sur le côté, décubitus dorsal et latéral, on le fait lors de la toilette au lit, mais on le fait aussi lors de la prévention d'escarres, on le fait aussi lors de certains soins, on le fait aussi lorsqu'on fait la réfection du lit occupé, quand le patient est en décubitus dorsal, on le retourne, on pratique un retournement pour le mettre en décubitus latéral pour pouvoir positionner le drap en faisant des abductions et des adductions pour pouvoir mettre le drap, enlever le drap et mettre le drap propre à sa place. Donc il y a des changements de décubitus, du retournement. Le décubitus ventral est rarement fait, c'est quand on est couché sur le ventre, il est rarement fait, mais il est nécessaire quand il s'agit par exemple de plaies au sacrum, d'escarres au sacrum où la personne doit être couchée pour pouvoir être soignée. Voilà pour les positions dans le lit. Je vous invite à aller aussi chercher la différence entre redressement, rehaussement et rabaissement. Et comme exercice. Et ensuite, je vous donne aussi une des clés des transferts et de la mobilisation, c'est de se poser trois questions dans la réflexion sur la situation. Est-ce que le patient veut cette manutention? Est-ce que le patient peut réaliser cette manutention? Ou est-ce que le patient comprend le bénéfice de la manutention et comprend aussi ce que je lui dis? Donc voilà pour le premier enregistrement. Je vous invite, pour pas en faire cet enregistrement, de chercher les 10 règles d'ergonomie à connaître par cœur. Dans les livrets VAE, au niveau Bac Pro, AS ou AP, vous pouvez simplement préciser la connaissance des 10 règles d'ergonomie. Vous pouvez aller plus loin en y mettant quelques-unes, si vous voulez, parler de ces règles d'ergonomie dans vos livrets VAE. Voilà.